Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
C'est cela au fond la paix. Plus profondément que l'absence de guerre, c'est un état de sécurité des peuples qui permet leur émancipation totale, débarrassée de toute oppression, discrimination et d'exploitation et de mise en concurrence des peuples. Et un état de sécurité des peuples, c'est bien sûr l'absence de conflits armés, mais c'est aussi la possibilité de vivre dignement, de manger à sa faim, d'avoir accès à l'eau et à l'énergie, à la culture, au sport et à tant d'autres choses. La paix englobe l'absence de guerre, mais ne s'y résume pas. Elle, la condition d'une vie pleine et digne. C'est aussi une manière de vivre ensemble. Voilà, à mon sens, que devrait être ce que nommait Jean Jaurès comme la paix véritable. Et la paix est menacée sans cesse. Et peut-être tout particulièrement en ces années que nous vivons, car nous semblons bel et bien engagés sur les voies qui mènent au conflit. Ce qui menace la paix, ce sont bien sûr les tensions géopolitiques et les guerres. Mais fondamentalement, ce qui menace une paix véritable, ce sont les inégalités, les injustices sociales et environnementales, les discriminations qui mènent au conflit et sont entretenues par ceux qui y ont intérêt, c'est-à-dire les capitalistes et avec eux, les profiteurs de guerre, qui ont intérêt, par exemple, en ce moment, à l'inflation que nous vivons aujourd'hui sur les produits alimentaires ou énergétiques, et qui permet au gouvernement, à leur solde, de réprimer, mais aussi d'abroger les conquis sociaux, y compris par la voie de l'autoritarisme. Ce qui nous mène aujourd'hui à un ultralibéralisme contre lequel nous nous débattons aujourd'hui au détriment de l'intérêt général. Et les ultralibéraux qui nous gouvernent basculent dans un libéralisme autoritaire. On le voit à la multiplication des lois, restreignant les libertés et les droits, aux vagues sécuritaires et aux discours, et aux lois de plus en plus proches de l'extrême droite, notamment après ce que nous avons vécu au Sénat la semaine dernière sur la loi dite « immigration et intégration ». Il prépare, ce gouvernement, tous les outils pour les fascistes s'ils venaient à arriver au pouvoir. Car si j'espère de tout cœur que nous éviterons cette catastrophe, elle semble, hélas, bien engagée, comme le prouve leur victoire en Italie ou plus proche de nous la semaine dernière, aux Pays-Bas ou encore en Argentine. Parce que le capitalisme repose sur la concurrence et la recherche de profit. Il mènera, si nous le laissons faire, au fascisme. Ils sont les deux faces d'une même pièce, celle de l'exploitation du plus grand nombre par quelques-uns, celle d'un monde du chacun pour soi. La flambée de l'extrême droite en Europe et dans le monde montre bien que le nazisme n'est pas un mauvais souvenir pour tout le monde et que le fléau du fascisme guette inlassablement et qu'il ne faut jamais relâcher la vigilance, lutter sans cesse contre toutes ces monstrueuses émanations, y compris lorsque le fascisme se pare d'un vernis plus acceptable et manifeste contre l'antisémitisme avec dans ses rangs des antisémites notoires comme Zemmour, dont je rappelle qu'il a été condamné pour racisme et qu'il a osé dire que Pétain avait sauvé des Juifs. Nous pensions peut-être, au sein de l'Union européenne, être préservés du fascisme, mais aussi des guerres, dans une forme d'utopie, si l'on peut dire, néolibérale, où les échanges commerciaux pacifieraient les relations internationales. Ce mythe, certains parmi les fondateurs de l'Union européenne y ont sans doute véritablement cru. D'autres, plus cyniques, n'y ont vu que les prémices d'un tout marché de profit à venir. La logique néolibérale qui repose sur une visée de profit à court terme a non seulement creusé les inégalités au sein des peuples, mais également entre les pays. Dans le tourbillon de cette concurrence féroce, de rivalité vorace, l'escalade et la surenchère finissent souvent par devenir les seuls horizons. La logique belliciste, sous toutes ses formes, doit être combattue. Elle prend sa source et se renforce dans le lit du nationalisme, du repli sur soi identitaire, du racisme, qui conduisent à des injustices et des discriminations jusqu'à la haine. Elle se renforce également par le colonialisme et la situation actuelle en Israël et en Palestine l'illustre. Car en opprimant un peuple, en créant l'apartheid, on ne fait que nourrir l'injustice, et l'injustice engendre la haine qui peut mener à l'hydroterrorisme. L'attaque du Hamas le 7 octobre dernier est inexcusable et doit être condamnée fermement. Mais elle n'advient pas sans des décennies de violence, d'humiliation, d'emprisonnement de prisonniers politiques, d'expulsion, d'occupation, de checkpoints et d'accaparement des terres. Tenter d'expliquer et de comprendre n'est pas justifié. On ne résout aucun conflit, aucune situation problématique si l'on ne tente pas d'en comprendre les origines et les rouages pour ensuite travailler activement à la paix qui ne peut advenir sans justice et réparation et, dans le cas de la Palestine, sans la fin de l'occupation. Mais la réplique qui frappe actuellement Gaza est tout aussi inhumaine, tout aussi inexcusable, car la vengeance aveugle et forcenée ne règle jamais aucun conflit et ne fait qu'ajouter de la haine à la haine. Non, on le redit, à la barbarie terroriste islamiste, on ne peut y répondre par les crimes de guerre et le nettoyage ethnique commis par l'armée de Tsahal. Et cette guerre qui implique de nombreux autres pays risque aussi de déstabiliser tout le Moyen-Orient. Si ce conflit déborde et embrase les pays voisins, les conséquences pour les peuples seront terribles. Les conséquences économiques et environnementales aussi. Il n'y a pas de paix durable dans le capitalisme forcené, qui est le cadre dans lequel nous vivons, dans cette course au profit délétère qui passe par les voies de la domination par quelques-uns du plus grand nombre, par certains pays ou groupements de pays sur d'autres. Cela ne peut mener qu'à la surenchère et à la destruction. Le capital a toujours intérêt à la guerre. Et la guerre peut se jouer à plusieurs niveaux. Elle n'est pas nécessairement limitée à un conflit armé avec un autre pays. En créant la division entre les citoyens, en entretenant sans cesse le fantasme des ennemis tant intérieurs qu'extérieurs, les pouvoirs autoritaires se mettent aussi en guerre contre une partie de leur peuple. C'est là tout le danger du fascisme, qui, sous couvert d'unité et d'identité nationale, ne fait qu'exclure des parties de la population. Mais c'est aussi une dérive du capitalisme, qui tient aussi sur la division et l'exploitation de la majorité de la population, tout en lui faisant croire qu'il y a toujours plus précaire que lui, qui tient sur les privilèges de quelques-uns et l'entre-soi soigneusement préservé de la classe dominante. À l'inverse, la paix suppose qu'il n'y ait pas de division entre les peuples, que l'égalité en droit soit partout respectée. La paix véritable, la paix comme projet politique, au contraire, c'est une société juste de partage des ressources et des richesses. C'est le choix de la justice plutôt que de la vengeance. C'est la voie de la diplomatie plutôt que de la surenchère guerrière destructrice dont la jeunesse envoyée par les puissants comme chair à canon est toujours la première victime. À rebours de la course au réarmement à laquelle nous assistons, ravivée par la guerre en Ukraine. Ainsi, en France, la loi de programmation militaire adoptée cet été en fera le premier poste de dépenses de l'État d'ici 2030, avec 413 milliards d'euros, ce qui représentera une augmentation de 40%, dont 50 milliards rien que pour la dissuasion nucléaire. Dans un total mépris pour le traité de non-prolifération signé par la France et du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté à l'ONU, qui rend les armes nucléaires illégales et interdit jusqu'à la stratégie de dissuasion nucléaire et qui est entrée en vigueur le 21 janvier 2021. La Pologne, quant à elle, entend doubler son budget militaire. Même l'Allemagne amorce une remilitarisation qui, pourtant, avait toujours été d'une grande prudence sur cette question, la mémoire sans doute. Les logiques d'alliance, de bloc, s'aiguisent et des grandes puissances s'affichent désormais en rivaux systémiques. Le surarmement progresse en Asie orientale quand la Russie veut creuser le sillon d'un conflit de civilisation, de valeur. Ces choix financiers sont non seulement porteurs de guerre, mais encore révèlent-ils les projets politiques et les représentations du monde et des relations internationales de ceux qui les font. Surtout, Ils se font au détriment d'autres politiques publiques, essentielles pourtant à la vie des peuples. Je pense à la santé, à l'agriculture, à l'éducation ou la culture notamment. Enfin, l'extrême droite gagne en puissance à travers le globe. Même si elle a perdu en Pologne, elle grimpe en Grèce, en Allemagne ici bien sûr, gagne en Argentine et dans tant d'autres pays. Les exemples s'enchaînent et avec eux, les risques s'accroissent. La menace de la guerre renforce le nationalisme et les réactions de repli et de surenchère guerrière. Mais ce sont toujours la défense et la dissuasion qui sont brandies comme justification de même que pour l'arme atomique. À l'heure actuelle, les dépenses vers l'armement nucléaire se chiffrent à 69 milliards d'euros en 2021, selon la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. L'heure n'est donc pas à l'abandon des quelques 13 080 armes nucléaires qui composent l'arsenal mondial et qui coûtent 146 500 euros à chaque minute qui passe aux 9 États qui la détiennent. Face au risque de l'armement nucléaire, Frédéric Joliot-Curie et les signataires de l'appel de Stockholm pour la paix du 19 mars 1950, toujours d'une actualité criante, exigeaient l'interdiction absolue de l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations. Nous ne pouvons encore aujourd'hui que souscrire à leur appel. Dans un contexte de tension et de remilitarisation, quelles sont les chances que la paix puisse advenir ? Garantir la sécurité de sa population par la menace de violence n'est qu'une illusion. Lorsqu'on combat par la violence, on trouve toujours plus fort que soi, plus déterminé, plus armé. Et bien sûr, la guerre ravage, c'est une évidence. Je veux avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles partout dans le monde. Nous ne faisons pas de tri dans la solidarité et la grande fraternité humaine, et nous pensons donc aux victimes en République démocratique du Congo, au Yémen, à nos amis kurdes au Mali et dans tant d'autres pays aujourd'hui ravagés par la guerre. Je veux aussi avoir une pensée également pour toutes les voix qui continuent à appeler à la paix. Pour notre part, à l'humanité, nous portons cet héritage de notre fondateur dans cette période de tumulte. Nous faisons le choix des peuples, de l'analyse et non de l'émotion, des faits et non des fake news, et de donner la parole aux acteurs de la paix, bien souvent menacés ou en danger partout dans le monde. À l'image de ce qui se passe en Ukraine, nous avons d'emblée ouvert nos pages à la solidarité avec tous les réfugiés. Nous sommes et nous serons toujours encore les ardents défenseurs d'une paix juste et durable pour toutes et tous, partout sur la planète. Il y a les morts, bien sûr, et les blessés. Il y a les destructions d'immeubles, d'infrastructures. Il y a aussi les impacts sur l'environnement, tant le climat que sur la biodiversité. Et c'est encore là fondamental. Certains balayeront d'un revers de main ce constat au regard des vies humaines détruites et des drames humains évidents. Pourtant, cela touche au plus grand défi que nous devons affronter. Rien moins que la survie de la planète et donc de notre humanité commune. A bien plus de vie au final que la plus meurtrière des guerres, jusqu'à présent du moins, mais il est vrai que la menace de l'arme atomique guette toujours. L'insécurité liée au changement climatique menace là encore la paix. Par son existence même, mais aussi du fait des conséquences du changement climatique qui conduiront inévitablement à des déplacements massifs de populations et de conflits autour des ressources, et ils ont déjà commencé sur l'eau et l'énergie. La paix, au contraire, c'est un état du monde, ou plutôt la garantie d'un monde dans lequel les humains respectent la planète et l'ensemble du vivant, car sans ce respect-là, il n'y aura pas de respect entre les peuples, ni de sécurité pour l'ensemble des habitantes et habitants de notre planète. Notre alimentation, l'air que nous respirons, l'eau en quantité suffisante dépendent de notre planète. La sécurité des peuples est conditionnée au respect de la planète et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Elle est conditionnée à une certaine sécurité quant à l'avenir de la vie sur Terre. La paix ne peut se construire durablement dans un monde où le profit est plus important que les vies, où la prédation des ressources l'emporte sur leur juste répartition. Elle ne peut se construire et se consolider sans éducation, sans la rencontre avec les autres et les échanges. Elle n'existe pas sans culture, mais elle n'existe pas non plus sans la rencontre avec les cultures de l'autre. Elle ne peut advenir sans respect des droits humains, sans réduire les inégalités, quelles qu'elles soient, sans assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, sans fraternité et sororité et solidarité entre tous les peuples. La paix n'est pas un idéal, elle est un objectif à construire. L'Assemblée générale des Nations unies, le 15 janvier 1998, déclarait « La culture de la paix est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Nous connaissons donc les racines des conflits, à nous de nous en saisir, car la paix est un horizon politique qu'il nous faut absolument atteindre si nous voulons vivre dans un monde dans lequel les peuples seront demain en sécurité, un monde où une véritable émancipation est possible. » Voilà les quelques mots que je tenais à vous dire. Je vous remercie de votre attention.
Même audio, une mémoire sonore.
Eh bien, merci beaucoup pour cet appel qui s'inscrit dans le prolongement effectivement de travaux sur lesquels nous reviendrons dans le débat. Alors, nous avons prévu de ne pas faire se succéder directement des directeurs de l'humanité, mais d'avoir ensuite deux interventions différentes. Et donc, en premier lieu, nous allons passer la parole à Alexandre Rioux, qui est un chercheur, historien, qui est doctorant à l'Université de Rouen et à l'Université de Strasbourg aussi, sous la co-direction du professeur Jean-Dumas Ducange, qui est connu ici, puisqu'il est venu également plusieurs fois parler du socialisme international, de Jules Guesde, dont il est l'exégète attitré, mais enfin, pas seulement spécialiste de Jules Guesde, on peut dire qu'il est aussi spécialiste de l'internationalisme, et notamment de son versant germanique et autrichien. Et justement, Alexandre Rioux travaille sur l'Europe centrale et plus particulièrement sur la Tchécoslovaquie, qui est un État, alors est-ce que c'est un État-nation d'ailleurs, je ne sais pas, un État binational constitué après la Première Guerre mondiale, qui n'existe plus sous cette forme, puisqu'après bien des avatars, des aventures, il y a aujourd'hui à la fois une République tchèque, une République de Slovaquie. Mais enfin, comme on avait commencé ce matin à poser un peu la question de la nation et de l'État, de la convergence ou de la divergence entre les deux, et comment tout ça se mettait en place au 19e au 20e siècle, il nous semble que justement, là, Alexandre Rioux est au cœur de ces problématiques étatiques et nationales dans une Europe où l'influence des grandes puissances est évidemment extrêmement présente au XXe siècle. Il n'y a pas que le Proche-Orient ou d'autres, parties du monde. Même au cœur de l'Europe, ces influences se sont fait sentir et se font toujours sentir fortement. Donc maintenant, Alexandre a la parole. Merci.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier donc Rémi Pêche pour son invitation et également Gilles pour des mots chaleureux d'introduction qui sont un parfait avant-goût de l'intervention donc, qui va suivre. Alors, sans plus attendre, pour respecter le timing, donc, je vais commencer. Donc, la communication s'intitule « Guerre et paix en Europe centrale et orientale » et en guise d'illustration, alors je m'excuse par avance du côté peut-être indigeste, mais j'ai décidé de vous mettre le plan, j'allais dire, de l'intervention de façon à ce que vous puissiez suivre aussi les principaux découpages du propos. Donc, la date tragique qui restera gravée dans nos mémoires du 24 février 2022 a marqué un tournant et une rupture dans l'histoire de l'Europe, et plus récemment de l'Union européenne. En décidant, au mépris absolu du droit international, d'envahir l'Ukraine démocratique, la Fédération de Russie a non seulement déclenché un conflit majeur aux conséquences incertaines et d'ores et déjà désastreuses, mais elle a également fait revenir le spectre de la guerre sur le continent européen et plus spécifiquement aux portes même de l'Union européenne qui avait eu ce privilège de ne pas connaître une si longue période de paix au cours de son histoire. Des conséquences désastreuses, car outre le bilan humain et matériel déjà considérable, les multiples crimes de guerre et atrocités commises par les forces d'invasion et d'occupation, dont les preuves nouvelles supplémentaires affluent chaque jour, le jeu des alliances, la proximité immédiate de la frontière de l'Union européenne et de l'OTAN, l'inscription voulue par la Russie de placer cette guerre dans le grand jeu international pourrait potentiellement donner lieu à un embrasement planétaire. Ce terme est utilisé d'ailleurs... j'avais raté un petit quelque chose. Avec la menace que cela implique et l'incertitude qui pèse sur ce que sera demain, un autre point retient notre attention, le principal foyer géographique duquel le conflit a débuté, à savoir l'Ukraine. Or, autrement dit, un pays clé de cette région que nous appelons dans une dénomination académique l'Europe centrale et orientale. Et ce terme est utilisé par ailleurs bien souvent chez certains pour désigner un espace géographique aux contours flous, mal définis, dans l'esprit de celui qui l'emploie et qui renvoie le plus souvent aux territoires situés au-delà de l'Allemagne. Dans le champ académique, on distingue l'Europe centrale ou médiane de l'Europe orientale qui elle-même est distincte de l'Europe balkanique. Et globalement, donc pour cadrer le sujet et les principales aires sur lesquelles nous allons traiter aujourd'hui, l'Europe médiane recouvre les territoires donc de la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, excluant donc de facto l'Autriche, qui est pourtant au cœur géographique de l'Europe et a joué par son histoire un rôle d'équilibre, un rôle médian. Chez les historiens, l'intégration des espaces germaniques correspondant à l'Allemagne actuelle renvoie au terme de Middle Europa, mais ce terme porte en lui la charge d'un concept d'impérialisme. Cependant, comme nous le verrons, il est difficile, voire impossible, de ne pas intégrer la dimension autrichienne dans cet espace, à minima jusqu'en 1918, et en réalité jusqu'en 1939-45, ce territoire étant indissociable des trajectoires historiques de l'Europe médiane. Dans un même esprit de cadrage des termes de la communication, si la notion et le concept de guerre semblent relativement simples à cerner, notamment en raison d'une définition globalement partagée, bien que celle-ci soit soumise à quelques évolutions ces dernières années, qu'en est-il du terme de la paix? Quel sens lui donner? Cette paix renvoie-t-elle aux mêmes acceptions dans ces régions? Par ailleurs, sa définition se déploie dans une perspective multiscalaire, que ce soit par l'absence de conflits armés entre puissances étatiques ou encore l'absence de troubles, de violences, de contestations au sein d'une société, ce que l'on peut entendre sous le vocable de paix sociale. Et les choses donc ne sont pas si simples, et notamment dans cette région, on peut constater que parfois des périodes de paix peuvent tout simplement être propice à des évolutions institutionnelles dont la guerre va servir de déclencheur, d'accélérateur d'une reconfiguration sur des bases qui sont déjà posées, pensées. Et donc en Europe centrale, on va notamment le voir en 1918 ou encore en 1989. En outre, l'étude qui va suivre englobe aussi donc toute la dimension des accords internationaux destinés à maintenir les équilibres territoriaux, géographiques et satisfaire les ambitions tout en les limitant des différents acteurs centraux qui vont tantôt s'affronter, tantôt s'unir au sein de cette grande région. Et je pense notamment d'un côté à l'Empire russe, de l'autre à l'Autriche-Hongrie ou la double monarchie. Et enfin, l'Empire allemand à partir de 1871, sans exclure non plus l'Empire ottoman sur le déclin et dont les assauts répétés de la Russie à l'hiver 1877 manquèrent de précipiter le continent dans l'abîme quelques décennies avant la Grande Guerre. Enfin, également, un autre élément introductif que je souhaitais donner, c'est donc le congrès de Berlin en 1878 qui devait offrir justement un règlement global à ces convoitises et volontés d'influence des différents empires centraux et qui, finalement, va, dans une certaine mesure, tout en préservant temporairement la paix, poser également quelques germes qui vont se ressentir par la suite jusqu'en 1914. Et enfin, dernier point que nous évoquerons aussi, donc les grands traités post-1918 qui remodelèrent l'Europe, et enfin les grandes recompositions à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et la partition de l'Europe en deux ensembles. L'Europe centrale et orientale fut donc à l'épicentre des conflits, mais joua aussi le rôle du meilleur des sismographes des tensions européennes et internationales au cours de cette période, pour reprendre une formulation de l'historien Antoine Marès au sujet de la Tchécoslovaquie, et enfin un épicentre dont le paroxysme fut atteint lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Au cours de cette démonstration, nous allons notamment tenter de voir, de dégager le rôle et l'impact des conflits et des paix qui les ont suivis ou qui s'y sont intercalés au sein de cet espace centre-européen et d'Europe orientale entre 1848 et 2023. Donc notre histoire commence en 1848 avec une date charnière qui est tout simplement le printemps des peuples, la contestation d'une part des Tchèques à Prague pour la reconnaissance de leur droit d'État auprès de l'empereur, et d'autre part le conflit qui va déboucher sur une véritable guerre au sens propre entre d'un côté les Hongrois, donc sous le leadership de Kossuth, qui va enflammer dans un premier temps les empires centraux. À côté de ça, en 1848, on a aussi les premières tentatives, en gros, de pan-germanisme qui vont se mettre en place, avec notamment la tentation de créer une grande Allemagne, qui va donc échouer, mais qui va aussi donner, un précédent intellectuel. Enfin, donc, la suite de l'histoire, on la connaît, une répression féroce s'en est suivie de la part de l'Empire d'Autriche, avec le soutien de la Russie qui voyait cette vague contestataire et révolutionnaire d'un très très mauvais œil, et donc qui a contribué par le biais d'une armée à aider à écraser l'insurrection. Et pour autant, si cette victoire militaire une victoire de l'Autriche, pour autant, elle a posé les germes aussi d'une nécessaire évolution de la structure institutionnelle de la double monarchie. Enfin, au cours de cette période, un autre élément aussi qui a eu un écho, un poids considérable et sur lequel je souhaiterais dire quelques mots, c'est le poison de l'antisémitisme. Pour l'historien Paul Pasteur, le phénomène est hélas le mieux partagé au cœur de cette grande région, et c'est d'ailleurs ici, en Europe centrale, où il prit un essor nouveau et que se forgèrent tout au long de la seconde moitié du 19e jusqu'au début 20e les thèses qui préparèrent insidieusement le terrain à l'idéologie du nazisme, qui, vous m'excuserez de ce petit raccourci volontaire par manque de temps pour développer, s'est traduit par une forme de syncrétisme de plusieurs théories et discours des principales figures antisémites qui eurent un rôle à la fin de l'Empire d'Autriche, et je pense notamment à Georg von Schönerer, le théoricien de l'antisémitisme racialiste, et également à Karl Lueger, le maire de Vienne, chrétien social, qui s'est également et fort malheureusement illustré sur ces théories. Et enfin, un autre élément à prendre en compte au cours de cette période, le nationalisme, car si celui-ci se développa selon des logiques et des trajectoires assez différentes de ce que l'on a pu constater et étudier en Europe occidentale, son essor et son impact, y compris au sein des formations politiques ouvrières, en fit certainement le concept politique le plus transversal, car malheureusement, aucune force ne fut épargnée au cours de cette période par la pénétration du nationalisme au sein de ces mouvements, et en premier lieu, malheureusement, la social-démocratie. Et enfin, donc comme je l'évoquais un petit peu avant de manière très très synthétique, la montée des idées de Grande Allemagne au sein de plusieurs formations politiques, avec cette idée sous-jacente d'une libération en fait de l'Autriche-Hongrie de ces peuples slaves qui constituaient la grande majorité démographique, pour justement reformer une grande, ou plutôt former une grande nation allemande. Et là encore, c'est un débat politique qui malheureusement n'a pas épargné non plus les sociodémocrates, que ce soit côté allemand ou côté autrichien. Mais je ne rentrerai pas davantage dans le détail. Et enfin, donc, ces différents éléments atteignirent leur paroxysme au tournant de la décennie 1890. Donc la conflagration sans précédent qui débuta à l'été 1914, prit son origine en Europe centrale et orientale, et c'est en raison de la mécanique implacable des jeux des alliances mises en place au cours des décennies qui précédèrent, face à la montée croissante des tensions européennes et internationales, que le conflit s'embrasa si vite. À son issue, après 4 années de conflit qui affaiblirent les États tranchants dans toutes ces générations, l'effondrement de l'Empire Habsbourg, dont la chute se précipita durant la seconde partie du conflit, naquirent la Tchécoslovaquie, la Pologne, qui à nouveau se voyait dotée d'un État-nation propre, la Hongrie, par le traité de Trianon, et l'Autriche, par celui de Saint-Germain, quant à elle, perdaient une grande partie de leur territoire. Enfin, dans les Balkans, la Yougoslavie se forma sous forme de royaume en premier lieu. Ensuite, donc, suite à la création de ces 4 États-nations, donc là on fait un petit saut dans le temps, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, et qui va à nouveau en fait recomposer cet espace, puisque les invasions menées par l'Allemagne nazie au début de la Seconde Guerre mondiale répondaient à un programme politique funeste, l'espace centre-européen devant être recomposé pour servir la grandeur allemande et assurer sa domination. C'est pourquoi, dès 1938, l'Autriche fut annexée dans ce qu'on a appelé l'Anschluss, avec une annexion, mais aussi s'appuyant sur un débat qui, encore aujourd'hui, hante la gauche autrichienne, notamment car certains dirigeants sociodémocrates autrichiens à l'époque ont accepté cette idée d'Anschluss qu'ils défendaient dans une autre mesure et donc s'y sont résolus, comme Karl Renner. Enfin, les États slaves étant déniés, la Tchécoslovaquie était considérée donc du point de vue nazi comme une terre appartenant aux Allemands en raison des fortes minorités qui s'y trouvaient, donc les minorités sudètes, et la Pologne un territoire à germaniser en anéantissant systématiquement toute l'élite polonaise pour l'empêcher à jamais de renaître, avec comme idée sous-jacente, et d'ailleurs comme idée mise en avant également, la haine absolue des Slaves. Cependant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, tous les territoires n'eurent pas forcément le même rapport et la même trajectoire, et donc il y a eu une exception que je voulais quand même évoquer aussi, qui est l'exception slovaque, puisque la Slovaquie, en fait, qui du coup était déjà dans des conflits internes avec la Tchéquie au nom d'une autonomie revendiquée, put, j'allais dire avec énormément de pincettes, bénéficier d'un régime d'exception au cours de la période, avec la création d'un État autoritaire et cléricalo-fasciste slovaque, qui lui offrit l'autonomie en échange, fort malheureusement, de tout ce qui s'en est suivi, collaboration, etc. Et enfin, sur le terrain d'Europe orientale, donc la Russie, en Russie et sur le territoire actuel de l'Ukraine, donc eurent lieu aussi au cours de cette guerre, donc des combats absolument terrifiants où les horreurs de la guerre disputèrent à l'abomination des projets d'épuration orchestrés et mis en œuvre. Et donc, tout ça pour dire que voilà, au cours de cette période de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe centrale et orientale, qui fut également aux épicentres, fut une terre particulièrement touchée par la violence des affrontements, où de nombreux, nombreuses idéologies, se déployèrent et rajoutèrent du malheur au malheur. Et enfin, en conclusion de cette partie, donc pour dire que la capitulation nazie à la fin en mai 1945, ne fut pas pour autant la fin des difficultés de la région d'Europe centrale et orientale. Et donc là, je vais juste passer au grand 2, très rapidement. Donc après 1945 et la capitulation allemande, tous les pays d'Europe centrale et orientale tombèrent sous l'influence soviétique de manière plus ou moins déguisée, tantôt ou tantôt plus ou moins assumée. La Tchécoslovaquie, donc dernier État resté démocratique après la capitulation, tomba en février 1948 lors du fameux coup de Prague, exception étant faite de l'Autriche, donc dans cet ensemble médian et européen oriental, puisque la neutralité acquise lui offrit un destin de pont entre les deux blocs, l'émergence d'une troisième voie, héritée de l'austro-marxisme d'une part, et surtout, une absence d'influence d'ailleurs de part et d'autre, puisque neutralité obligeant, le camp occidental n'a pas pu non plus l'influencer. Et tous les États issus de la décomposition et de la chute de la double monarchie danubienne étaient désormais dans ce que l'on appelait ensuite les démocraties populaires, des régimes satellites de l'Union soviétique, qui lui étaient plus ou moins inféodés, mais n'en faisant pas directement partie. Et je dis plus ou moins, car effectivement, au cours de cette période, il y a donc eu aussi, alors je m'excuse, mais je passe assez rapidement sur des événements qui évidemment nécessiteraient un détail plus grand et une attention plus particulière. Donc il y a eu plusieurs tentatives de remise en cause au cours de cette période, donc qui va courir de 1945-48, dira-t-on, jusqu'en 1989. Donc en premier lieu, 1956 et la répression de Budapest suite à des tentatives de libéralisation en Hongrie, et 1968, événement un petit peu plus connu, le printemps de Prague, qui donna lieu dès l'été 68 à une invasion de la Tchécoslovaquie par le pacte de Varsovie, et qui fut un événement au retentissement majeur qui, encore aujourd'hui, est un marqueur brûlant de la période dans la mémoire collective des Tchèques notamment. Et enfin, donc, dans la deuxième partie, les années 70, notamment 80, les tensions, les contestations vont monter malgré des durcissements de certains régimes. Donc, par exemple, entre 81 et 83, l'état de siège fut déclaré en Pologne, accompagné de nombreuses répressions face à la montée des contestations, notamment du syndicat Solidarnosc. En Tchécoslovaquie, on va aussi assister à une société civile qui va user de tous les moyens de contestation possibles. Alors là, on va notamment voir la musique, la littérature, la fameuse charte 77, qui fut le manifeste de base d'une forme de contestation qui a amené à Václav Havel comme leader, ou principale figure de la contestation au régime. Et la conséquence de cette période fut le cycle de révolution plus ou moins silencieuse qui amena à la chute de l'ensemble des régimes des démocraties populaires de manière plus ou moins concomitante à l'effondrement de l'Union soviétique. Et la période donc de 1989 est comparable d'une certaine manière à la fin d'un monde et au renouveau des sociétés centro-européennes, car après plusieurs décennies, qui va englober pour certaines les régimes autoritaires pré-Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, puis la période des démocraties populaires, un véritable renouveau qui va s'opérer, mais avec des défis extrêmement importants à relever et des transformations à opérer, notamment de manière extrêmement rapide et radicale. Il s'agissait de changer en un temps record de régime, de modèle économique, de société. Donc les groupes de la dissidence formèrent certains des grands partis politiques que nous retrouvons encore aujourd'hui sur les scènes nationales. Et les sociodémocrates donc revinrent également de cet exil, tantôt contraints, tantôt, tantôt souhaité, puisqu'en fait, il ne faut pas non plus se leurrer. Certains dirigeants sociodémocrates, qui d'ailleurs certains étaient encore il y a quelques années en responsabilité, venaient eux-mêmes en fait des régimes des démocraties populaires, et une fois l'effondrement du régime, ont tout simplement changé d'obédience pour continuer une carrière politique. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Je pense notamment à quelques exemples concrets en Tchéquie. Et cependant, ce tournant ne pouvait réussir et la rupture complète s'exerçait qu'autour d'un grand projet de société et de siècle. Et c'est pourquoi ces pays cristallisèrent leurs efforts dès les années 90 autour de deux projets. Donc d'un côté, l'adhésion à l'Union européenne et de l'autre, l'adhésion à l'OTAN. Et enfin, donc, j'en arrive à la toute dernière partie, très rapidement, donc la date symbolique du 1er mai 2004 qui vient entrer les pays d'Europe centrale au sein de l'Union européenne, marquer un tournant majeur dans l'histoire du continent après ces années de dissidence, où l'Ouest apparaissait comme un modèle à atteindre, l'accession à l'indépendance et l'intégration à l'Union européenne permit tout simplement voilà, de concrétiser ces différents projets. Et pour des raisons de sécurité, j'allais dire que nous pouvons éventuellement comprendre aujourd'hui a posteriori, voilà, l'intégration à l'OTAN apparaissait aussi comme quelque chose d'extrêmement important. Et j'insiste dessus parce qu'à l'époque, dans les archives, on le voit notamment, c'était quelque chose qui était extrêmement prégnant et qui revenait très très souvent dans les échanges et dans... Donc voilà. Et enfin, donc, après avoir intégré l'Union européenne et après une période d'alternance, dirons-nous, plus classique, on assista à un phénomène nouveau qui est la montée des régimes dits illibéraux ou extrémistes, bien que ce sujet, en fait, ce terme soit sujet à caution dans le sens où on ne peut pas dégager une typologie unique. En Europe centrale et orientale, les populismes montèrent, et je pense notamment à des pays, donc d'un côté la Pologne, mais aussi la Hongrie de Viktor Orban, dont on parle beaucoup, mais dont la genèse se situe une quinzaine d'années en arrière, depuis peu la Slovaquie également, ou encore, dans une certaine mesure, la République tchèque, il y a quelques années. Aucun des pays d'Europe centrale, au cours donc, de la période 2010-2020, n'a échappé à cette triste montée. Et ce spectre, cette résurgence en fait, des nationalismes et des populismes doit nous servir d'exemple pour nous montrer jusqu'où justement ces poisons peuvent conduire dans des sociétés qu'on aurait pu justement par leur histoire penser immunisées face à ces régimes. Et enfin, donc, pour finir, l'invasion complète menée par la Russie à partir de février 2022 rompt complètement avec les tensions croissantes ou encore la guerre larvée qu'elle menait dans le Donbass. Depuis 2014, désormais, elle affiche au grand jour son agenda en niant l'existence même de l'Ukraine comme nation souveraine et en lui déniant le droit d'exister. Et par là même, c'est l'équilibre de l'Union européenne qui s'en trouve menacée, car l'Ukraine, comme je disais en introduction, est à nos portes. Elle est membre du partenariat oriental et un partenaire potentiel et candidat légitime pour nous rejoindre. Par ailleurs, l'agenda politique ultime du Kremlin et de son maître, qu'il nous a patiemment et longuement distillé au cours de ses 23 ans de règne, apparaît au grand jour sous un jour glacial et effrayant, mais hélas, si peu surprenant, car il n'a eu de cesse d'invoquer justement la Grande Russie se réclamant du double héritage tsariste et soviétique, qui ont pourtant, quand on connaît un peu l'histoire, si peu en commun, si ce n'est une forme de grandeur perdue et, j'allais dire, une diversité de peuples soumis à une russification implacable. Donc, en effet, de tous ces différents éléments qui se dérouleront sur son sol ou non, pourrait bien découler justement des événements qui impliqueraient l'ensemble des grandes puissances de la planète. Donc, en conclusion, la communication qui a embrassé un spectre chronologique et thématique extrêmement large, en quelques dizaines de minutes seulement, a eu pour ambition de dresser un aperçu succinct, mais le plus détaillé possible, des conflits, des guerres, des tensions internes lors des périodes de paix qui contribuèrent à forger ce territoire, mais aussi à resituer les grands mécanismes historiques de rupture et de continuité d'un espace européen central dont les histoires particulières rejoignent celles de l'ensemble du continent. Vous me pardonnerez, j'espère, d'avoir donc restreint certains développements pour pouvoir tenir le temps imparti et pour finir donc du printemps des peuples à l'hiver des empires, de la naissance des États-nations d'Europe centrale et orientale à l'issue de la Première Guerre mondiale à leur annexion, prélude à la Seconde, de l'influence des démocraties populaires à l'adhésion à l'Union européenne, bâtir une histoire des guerres et des paix en Europe centrale et orientale, c'est comprendre l'histoire de l'Europe tout entière. Une histoire trop méconnue dans le reste de l'Europe, et pourtant cette grande région, couvrant une large part de notre continent, joue un rôle de précurseur, de catalyseur des grandes tendances qui se dessinent, des tensions et des risques géopolitiques et géostratégiques qui se dessinent. À l'heure du retour de la guerre à nos portes, menée par un pouvoir qui n'a jamais accepté sa perte d'influence et qui n'a jamais renoncé à ses velléités hégémoniques sur un espace géographique et une aire culturelle qu'il estime être à minima dans sa zone d'influence, l'horizon semble bien sombre et la paix qui prédominait jusqu'alors semble bien précaire pour l'Union européenne. Si aujourd'hui nous devons effectivement tout faire pour préserver ou atteindre la paix, celle-ci ne peut se faire à n'importe quel prix car l'histoire de cette région, bien plus encore qu'ailleurs, nous a enseigné et nous enseigne encore que bien des appétits ne peuvent être rassasiés et qu'il est impératif de stopper certaines ambitions avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, en voulant impérativement sauver la paix, une paix de court terme, on ouvre grand les bras à la guerre en s'obérant jusqu'aux moyens d'y faire face. Si le conflit en Ukraine puise une part de ses sources dans l'histoire de ces 150 dernières années, une histoire dévoyée et pervertie par l'agresseur, pour autant, connaître l'histoire de cette grande région, c'est connaître combien les grandes lignes de force sont encore aujourd'hui d'une actualité brûlante. C'est aussi comprendre que le droit de vivre en paix, en maître de son destin, demeure un horizon à défendre, car bien des choses nous sont considérées comme acquises jusqu'à ce qu'elles nous soient retirées. Cette tragédie, porteuse de tous les risques et se déroulant à nos portes, en est, hélas, un exemple cruel. Je vous remercie.
Bien, merci. Merci beaucoup Alexandre Rioux de nous avoir présenté dans longue durée cette importante partie de l'Europe qui est couverte de cicatrices anciennes qui se rouvrent souvent et surtout d'avoir relié les oppositions internes à ces États parfois un peu mal fagotés qui ont résulté des guerres mondiales et qui ont subi des influences extérieures aussi très mauvaises. Donc ça nous permet au moins de comprendre et d'expliquer ce qui est aujourd'hui un point chaud du globe, l'Ukraine. Et il y en a d'autres.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Alors maintenant, moi je vais vous présenter Pierre Chalier, qui est ici. Alors Pierre Chalier est un grand reporter de La Dépêche. Et je crois que c'est assez symbolique aussi de le voir dans ce colloque, puisque La Dépêche, c'est à Toulouse une institution depuis 1870. Et c'est un journal qui a quand même toujours eu le souci de s'ouvrir sur le monde. En le voyant, je pense à René Moriès, qui a été lui-même un très grand journaliste, reporter, qui a parcouru le monde et qui n'a pas hésité à aller au point chaud en Amérique latine et en Afrique. Et on pourrait même remonter encore plus loin à l'un des fondateurs de La Dépêche telle que nous la trouvons actuellement, Albert Sarraut, qui a été d'abord, dans son jeune temps, il avait 20 ans, il a parcouru certains pays qui étaient agités par des tensions. Et puis, il a été aussi, en tant que gouverneur de l'Indochine et puis ministre des colonies à plusieurs reprises, un colonisateur. Enfin, là, il était... je ne sais pas s'il a envenimé les choses ou s'il a posé des bombes à retardement que nous voyons
aujourd'hui
exposées. Il a aussi publié un livre important sur le développement des colonies, qui, si on l'avait suivi, peut-être que la France aurait eu une autre image que celle de prédation et de prédation, de difficultés qui aujourd'hui s'exercent contre la France, en Afrique même, et qui se prennent parfois même par la violence avec laquelle elle se déploie. Alors Pierre a bien insisté sur le fait qu'il ne voulait pas présenter une communication académique et construite, mais plutôt ouvrir des fenêtres sur un dialogue entre nous. Et j'ai vu que les auditeurs sur l'estrade prenaient pas mal de notes au moment de l'exposé d'Alexandre. Pierre, qui a parcouru des points chauds de cette Europe centrale, en particulier le Kosovo et la Yougoslavie, est à même de répondre, mais il a été aussi au Proche-Orient, dans plusieurs États, il a été aussi en Amérique et en Afrique, donc c'est à vous, Pierre, allez-y.
Bah, tout d'abord, merci pour votre invitation. Oui, j'étais un peu le mauvais élève de la journée parce que j'ai pas dû bien lire les consignes. C'était déjà le cas au lycée et j'ai pas préparé. La vérité, c'est que j'ai pas préparé de communication. Alors, comme je suis je vais aller dans ce côté de la paresse et je vous propose de commencer par quelques images qu'on va laisser défiler rapidement, qui commencent en novembre 1989, normalement, si elles sont dans l'ordre, et qui s'achèvent en février 2022. Je vous inflige pas mes photos de vacances, j'en essaye juste de balayer ça. C'est la période qui va de mon premier article jusqu'à l'un de mes derniers grands reportages en zone de conflit. Donc, novembre 89, moi j'ai commencé l'année en service militaire. Mon adjudant instructeur m'explique que les Spetsnaz soviétiques, j'ai même pas besoin, ce qu'il m'apprend au combat, ça ne sert à rien parce qu'ils m'égorgeront avant que je les entende arriver. Et à la fin de l'année, je suis en train de finir mon service et je pars à Berlin et je serre la main des soviétiques de l'autre côté. Donc, un bouleversement total. 2 ans plus tard, on est toujours à Berlin, à Potsdam. Potsdam, et vous voyez sur cet uniforme, c'est un tankiste qui a déjà dans ce visage une phrase que Jacques Attali prononcera en 99 lors d'une conférence à laquelle j'assiste. Il y a quelque part dans l'ex-Union soviétique un caporal ex-soviétique qui écrit son Mein Kampf. Je trouve que cette photo, on est Potsdam, c'est là qu'a été signée la capitulation de l'Allemagne nazie face à l'Union soviétique. Et le tankiste, c'est celui qui porte la guerre, c'est celui qui a été au cœur de cette guerre. Quand on est à Kharkiv, on est accueilli par une très grande peinture murale qui célèbre les tankistes, avec un petit garçon blond qui dit aux tankistes de 1944 « Merci grand-père de nous avoir libérés ». Les 3 premières batailles de Kharkiv, c'est 80 à 100 000 morts. Afghanistan, quelques années plus tard, c'est un AK-47 que j'ai photographié, fossilisé, qui avait été coulé dans le béton et qui, pour moi, est un peu une photo qui court du XXe siècle à aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, ce sont des tirages argentiques que j'avais rescannés, donc il y a du grain. Beaucoup trop de grain, mais toujours en Afghanistan, dans la montagne, lors d'une vaccination. Un imam qui a eu la moitié du visage arraché par un éclat soviétique à l'époque. Un soldat français qui est rapatrié après avoir sauté sur une mine. Il est en train de déminer au profit des populations civiles. Il avait 19 ans, il s'appelait Kamel Elvard. Nous sommes au Mali, dans le nord du Mali. Et ceux qui sont devenus l'une des principales populations du monde, les réfugiés. Il y a aujourd'hui, à travers le monde, entre 110 millions, tout compris réfugiés et déplacés, 110 millions. Là, nous sommes en 2019, c'est la poussée des Turcs sur le Kurdistan syrien, et ce sont les réfugiés kurdes syriens qui arrivent au Kurdistan irakien. Les Kurdes irakiens ne démontent même plus les tentes parce que les vagues sont telles que les camps se vident, les camps se remplissent, les camps se vident, les camps se remplissent. Et ensuite, ce sont les files d'attente pour percevoir les paquets de l'aide. Nous étions à Alep avec Gérard Bapt en 2017. La bataille officiellement était finie. Nous étions du côté gouvernemental. Et officiellement, les médecins nous disaient qu'il y avait des antalgiques pour soigner les blessés, qui, eux, n'avaient pas... Je suis d'accord avec ce que disait madame par rapport à la notion de confession, c'est une politisation des confessions, et il n'y avait pratiquement plus rien du fait du blocus pour les qui touche toutes les populations civiles. Alors la guerre, c'est sale, ça pue, et c'est ce qu'on le voit, on l'a dit ce matin, il y a une marée d'images aujourd'hui, Cette petite fille allait inviter sa tante à son gâteau d'anniversaire lorsqu'elle a pris une roquette tirée par les djihadistes de Damas-Est. Et donc, avec Gérard, on a eu sa mère dans les bras qui nous suppliait en pleurant de la ramener en France alors qu'elle était déjà en état de mort cérébrale parce qu'elle pensait qu'on pourrait la sauver. Ce sont des Bédouins qui sont soignés. Et ça, donc, dernières images, Kharkiv, nous sommes 3 semaines avant l'attaque. Et vous voyez les tanks qui sont derrière et les enfants jouer autour des tanks. Et peut-être l'image de ce conflit 3 semaines avant. À droite, un char ex-soviétique peint aux couleurs de l'Ukraine. À gauche, un tank du temps de l'Union soviétique. Et nous sommes devant le musée de la guerre qui, du temps de l'Union soviétique, était le musée de la Grande Guerre nationale, qui maintenant est le musée de la guerre, des guerres qu'a traversé l'Ukraine, en incluant, moi, il y a un temps que j'inclus, qui est celui de 1917-1918, que Bulgakov décrit dans la Garde Blanche, et qui est la première indépendance de l'Ukraine, avec la résistance de la Garde Blanche face à la progression de la future armée rouge. Et la statue que vous voyez, la grande statue soviétique qui domine ce musée, regarde dans la direction de Moscou. Voilà. Un petit raccourci clavier, comme on dit, sur de la chute du mur à la guerre en Ukraine. C'était juste pour donner quelques images. Et bien sûr, parce que j'ai rien préparé. Alors, pour ma génération, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que ce métier, j'ai noté cette phrase ce matin, le journaliste, la saturation d'images, oui, on l'a aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui a été fait sur le Vietnam et ce qui est en ligne au quotidien sur Gaza ou sur l'Ukraine, il n'y a plus aucune commune mesure. Mais les images de l'horreur, pour la dénoncer et mettre fin à la guerre, quand comment on est né en 1965, c'est quelque chose qui charpente l'envie de faire ce métier, c'est quelque part d'essayer d'apporter par le témoignage des armes contre la guerre. Les années passent, les conflits perdurent. Je ne suis pas reporter de guerre, je suis au sens où je suis toujours resté à 1 ou 2 kilomètres de la ligne de feu. J'ai vu les roquettes passer au-dessus de ma tête, mais je n'ai pas été directement au contact. Mais sur tous ces terrains que j'ai pu traverser ces dernières années, j'ai toujours eu la sensation de marcher. On marche toujours sur des braises, celles qui ont été décrites ce matin par les uns et les autres, et des braises qui ne demandent qu'à reprendre. Les images, nous sommes face à une saturation d'images, c'est un constat, d'impuissance pour la profession aussi, parce qu'on a l'impression que rien ne s'arrête, que ça ne sert à rien. Par contre, on a une seule certitude, c'est que s'il n'y a pas d'images, c'est encore pire, que le massacre se fait à huis clos, et avec une impunité absolue. On n'a pas d'image du Rwanda, par exemple. On n'a pas d'image du Yémen. Voilà. Bon, donc, le reporter dans les zones de conflit de ces dernières années, ben, il est un peu comme Fabrice à côté de Waterloo. Il n'a pas forcément la vision d'ensemble. Il voit ça à niveau d'homme. Il voit ça à ras d'humanité. Il voit ça à travers des cohortes de réfugiés. Alors, le réfugié, c'est un mot pratique qui déshumanise beaucoup de choses. Le réfugié que vous voyez arriver dans un camp du Kurdistan alors que le soleil tombe, qui court avec son bébé et une boîte de lait en poudre, c'est un monsieur qui, il y a 48 heures, avait une maison, une vaste villa avec une dizaine de pièces, 2 ou 3 voitures, la télé satellite, quelqu'un qui vivait comme vous. On a souvent cette image, par exemple, d'un proche ou d'un Moyen-Orient qui est resté très, très, très dans nos images de Tintin, etc. Non, Alep, c'était une ville, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants avec la banlieue. C'était des villes où il y avait toutes les commodités modernes. C'est vrai à Dohuk, c'est vrai à Erbil, c'est vrai côté syrien, côté Kurdistan syrien. Et donc ce qu'on appelle le réfugié, ben, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui a une famille, qui a un métier, qui gagne sa vie, qui fait ce qu'il peut pour survivre dans un contexte tendu et qui du jour au lendemain se résume à des haillons, un sac plastique et une étiquette qui n'a plus son destin en main, d'accord, et qu'on va repousser, qu'on ne veut pas voir, qu'on va invisibiliser en tant que personne. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé un petit peu partout. Aujourd'hui, je pense que la question des réfugiés est, par rapport à la question de la, des guerres, est quelque chose qu'on n'évalue pas à sa juste mesure parce que les réfugiés, la guerre sédimente. Ce que moi, dans les mémoires, la guerre fabrique des bombes humaines. Quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien à perdre, que la seule chose qui vous reste, qu'on préfère faire peur que pitié, lorsque l'on est un réfugié, c'est là que va s'opérer la montée de la tension, c'est là que vont se cristalliser le plus de violence. Au cours de ces différents reportages, je vais faire un saut. J'ai traité de la guerre de 1914-1918 lors du centenaire, en passant par la guerre d'Espagne. Je suis allé sur le terrain, donc en Afghanistan, en Syrie, au Kurdistan, au Mali, au Niger. Il y a un point commun à tout ça, c'est la profondeur historique de ces conflits et c'est la façon dont les conflits restent dans les mémoires des personnes, la façon dont ils métastasent, la façon dont ils vont définir et pourrir de l'intérieur une société, si la paix n'est pas bien faite, si on est juste dans des logiques d'armistice, si l'on n'est pas dans des logiques de réparation et de compréhension mutuelle. C'est très vrai en Espagne, on a encore 120 à 130 000 morts dans les fosses communes. La France n'a toujours pas pu récupérer le corps de René Lafont qui a été fusillé le 1er septembre 1936, dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Jean Ortiz, journaliste du Populaire de Léon Blum, exécuté par les nationalistes. Elle est toujours quelque part, on l'a sortie de sa fosse commune à Cordoue. On a tous parlé de Gerda Taro parce qu'elle était la compagne de Capa. Et nous avons aussi cette journaliste emblématique, qui est toujours là-bas. Et l'Espagne, quand on regarde la crise politique que traverse l'Espagne d'aujourd'hui, je pense qu'elle est difficile à décrypter si l'on ne comprend pas qu'il y a toujours 120 000 à 130 000 corps dans les fosses communes qui n'ont pas été rendus à leurs familles et que cela structure une grande partie du débat autour de la Catalogne, du nationalisme espagnol, parce que, en l'occurrence, la démocratie espagnole repose sur les scories, les cadavres de la guerre d'Espagne, et en ce sens où le retour à la vie démocratique s'est fait sous la forme suivante, ce sont les bourreaux qui ont pardonné aux victimes. En Argentine, il y a eu des procès, au Chili, il y a eu des procès, en Espagne, on attend toujours en vain des procès, puisque c'est une loi d'amnésie. Je reviens aujourd'hui, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué sur ces zones de conflit. Il y a l'horreur des destructions. Il faut imaginer une guerre moderne à haute intensité, quand vous la voyez à Radom, que vous partez en voiture de Damas à Alep. Il faut imaginer Stalingrad sur 300 kilomètres. Il faut imaginer qu'il n'y a plus que des dentelles de béton. Il faut imaginer que la puissance de feu dévastatrice fait que l'eau potable, l'évacuation des déchets, tout ça, c'est une guerre, c'est une catastrophe écologique aussi. Hein. C'est une catastrophe humaine, c'est une catastrophe économique. C'est une dévastation de tout ce qui est environnemental aussi. Et donc, il y a ce que l'on voit. Et puis, il y a ce que l'on ne voit pas et qu'on devine, mais qui s'inscrit dans l'esprit des victimes, des populations. C'est toute la mythologie, tout le discours de la guerre, tout le discours autour des martyrs. C'est le mot qui est utilisé, par exemple, au Moyen-Orient. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des martyrs. Et qui va préparer les germes de la suivante. C'est toute cette douleur, tout ce récit qui se fait et qui est récupéré par les pires extrémistes pour continuer à monter les gens, les uns contre les autres. Dans ce que vous disiez ce matin, madame, je suis, par rapport à, aux confessions, oui, ce n'est pas une question de religion. Je vous prie de m'excuser si je parle un petit peu comme ça en vrac, mais ce à quoi on assiste depuis une quarantaine d'années, c'est la prédation des extrêmes droites sur le discours religieux, sur les monothéismes qui portent en eux des éléments de totalitarisme par la doxa qu'ils véhiculent. C'est un discours d'extrême droite qui s'empare du religieux, qui s'empare des confessions pour radicaliser chacun et faire son pognon avec. Le Liban, décrit par Jamil El-Sayed, ancien patron du renseignement libanais, ce sont des chefs mafieux à la tête des partis religieux. Ce n'est pas mes mots, hein, ce ne sont pas mes mots. Je parle sous le contrôle de Gérard Bapt qui a assisté à cet entretien. Ce sont des organisations politiques qui se servent du religieux pour mettre en coupe réglée le pays et se partager les décombres de ce qui reste après la guerre. C'est ce qui s'est passé. C'est le paysage qu'on en décrit. C'est donc une politisation des confessions que Kessel décrivait par rapport à, en 1926 par rapport à son livre En Syrie, qui est un de ses premiers grands reportages. En 1926, Kessel dit, parlant de la Syrie, parce que le Liban est tout neuf, en Syrie, il y a 27, je crois que oui, il cite le chiffre de 27. Il y a 27 confessions, chacune à rang de nationalité, et les forces de toutes les puissances, le sens de la phrase, les forces de toutes les puissances voisines sont en concurrence pour semer là le chaos. 1926. Bon. C'est un peu le même constat qu'on fait aujourd'hui sur ces lignes de fracture entre empires qui sont tombés, empire ottoman, empire perse et le rêve arabe, d'une unité arabe. Il y a ça, mais effectivement, sur ces décombres sont arrivées des radicalités religieuses, mais qui sont nourries par un discours d'extrême droite à chaque fois. Par un discours économique aussi. C'est pas pour rien que les États-Unis ont soutenu les frères musulmans, parce que le discours économique des frères musulmans, il est ultra-libéral. De toute façon, il n'y a pas à mettre en place un programme social, puisque c'est la charité qui doit tout pallier. Et c'est Dieu qui décide du programme social. Voilà. Je résume et je reviens à notre sujet. Donc, ces réfugiés, aujourd'hui, c'est ce qui définit les guerres modernes, c'est que ce sont les civils qui sont les cibles prioritaires. On le voit en Ukraine, on le voit à Gaza, on le voit partout. C'est que les civils sont utilisés comme une arme de pression politique. C'est la façon dont Erdogan, avec la Turquie, instrumentalise les réfugiés syriens pour négocier avec l'Europe. Et ces réfugiés, si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne fait pas, si on ne prend pas cette dimension, on ne fabrique que du désespoir. Ce qui a été le cas au Liban avec la première guerre, mais ce qui est encore le cas avec tous les réfugiés syriens qui sont au Liban et qui déstabilisent en profondeur le pays et qui poussent à cette fuite en avant et à cette radicalisation de chaque parti. Une personne qui a tout perdu, elle n'a plus que ses morts, enfin, elle a la mémoire de ses morts à défendre, elle a la mémoire d'où elle vient à défendre. Et comment on fait la paix dans ces cas-là, si tout cela se fossilise, si tout cela est instrumentalisé, si de toutes parts, des partis soufflent sur les braises, instrumentalisent les réfugiés, afin de créer des métastases et une déstabilisation globale. Ce sont les questions avec lesquelles on rentre quand on rentre de reportage, en voyant cette instrumentalisation permanente des populations civiles. Avant de venir, parce que j'avais essayé de noter, au gré de ces déplacements sur le terrain, constater des destructions, des détresses insoutenables, Ben oui, il y a des phrases qui ne sont que factuelles. Quand Jaurès dit « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée, j'écris vraiment très très mal avec l'âge, comme la nuée porte l'orage », oui, c'est un fait. C'est absolument un fait, c'est vrai pour 14-18. Jaurès, alors là je parle sous votre contrôle, parce que ça ce sont des textes que j'avais sous les yeux lorsqu'on a commencé à travailler sur le centenaire de 14-18. L'un des problèmes majeurs de 14-18, c'est que si la Russie pousse sous les feux et pousse au crime de la guerre, c'est que le scandale des emprunts russes va éclater, qu'il est en train d'éclater, et qu'une partie de tous les grands dirigeants russes qui se sont goinfrés là-dessus et qui ont claqué le pognon, pour parler vulgairement, pensent que la guerre permettra de passer ça sous le tapis. Je parle sous votre contrôle, messieurs, mais j'ai lu des textes qui allaient en ce sens-là. C'est aussi une des dimensions du problème. Une petite guerre va nous... C'est une guerre fraîche et joyeuse, comme on dit à l'époque. Ça va permettre de passer pas mal de scandales financiers sous la table. C'est l'une des dimensions que j'avais lues, donc, il y a une dizaine d'années, en préparant les articles et la série que nous faisions à l'époque sur 14-18. La guerre d'Espagne, elle se joue à la City. Elle se joue à la City, la guerre d'Espagne, au niveau des financements des nationalistes. Elle se joue chez Standard Oil, qui ouvre une ligne budgétaire complète aux franquistes afin qu'ils puissent faire tourner leurs camions. Et chez Ford et General Motors, qui filent les camions. Parce qu'il faut de la stabilité, parce que mieux vaut l'ordre que la justice, et que ça a toujours ce qui a prévalu chez ces capitaines d'industrie, et que on a de l'argent aussi à récupérer en Espagne. Il a été très pratique de disposer de la Légion Condor allemande et de la Légion italienne pour dire il y a deux grands vilains qui ont aidé les méchants franquistes, ce sont les Allemands nazis, ce sont les Italiens fascistes. Mais oui, les lignes de compte et les lignes bancaires, elles sont à Londres et elles sont à New York pour que ça fonctionne. Donc oui, ce capitalisme-là a précipité la guerre. Et plus près de nous, ce qui m'a beaucoup frappé dans les conflits que nous avons pu voir dernièrement, l'Afghanistan a été le pire exemple. L'Afghanistan... Allez, je vais faire Afghanistan plus Irak, c'est 2000 milliards de dollars de dépenses. De dépenses militaires qui ont été votées sur instigation et sur manipulation de personnes comme Dick Cheney et Condoleezza Rice, qui, eux, ont engrangé les bénéfices dans leur structure, dans les conglomérats économiques qu'ils avaient, qui engrangeaient les bénéfices de la guerre, de tout ce qui était vendu sur le terrain. Parce que eux arrivaient avec les bâtiments, arrivaient avec les cantines. Quand vous arriviez à Kaboul en 2006, la seule force qui avait son restaurant pour la troupe, c'était la force française. Toutes les autres unités, la trentaine de pays présents, aller manger aux mess américains. C'est pas gratuit, ça ne se voit pas, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. Donc ce sont des guerres qui ont aussi été menées pour des intérêts privés, directement pour des gens qui étaient au pouvoir à cette époque. Et ça, c'est ce que l'on voit aussi à hauteur d'homme sur le terrain par ce type de détails, en se demandant mais qu'est-ce que j'ai dans l'assiette, qui est-ce qui l'a amené? Comment tourne l'électricité? Comment coule l'eau dans le camp militaire où je suis? Quelle est l'entreprise qui fournit les services? Et c'est un énorme marché. C'est un énorme marché. Voilà. Je pense que j'ai excédé le temps qui m'était imparti, sans doute. Voilà. Pardonnez. Oui, j'étais un petit peu long, peut-être. Et pas forcément... je vous prie de m'excuser. J'ai pas fait mes devoirs. Hein, j'avais pas fait mon truc. Et donc je me tiens à votre disposition pour ceux et celles qui souhaitent poser des questions. Je serai plus à l'aise pour répondre à des questions ou pas que pour vous raconter ce type de reportage où, à chaque fois, ce que l'on regrette... c'est qu'on est toujours sur le terrain en train de regarder les conséquences et en se disant qu'on n'a pas la photo et qu'on n'est pas en train d'interviewer ceux, les vrais responsables. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. C'est pas de moi, hein, c'est Anatole France. Et c'est quelque chose que l'on vérifie malheureusement à hauteur d'homme sur le terrain. En ce sens où, à chaque fois, je repense à la question des armées romaines, par exemple, qui étaient toujours suivies ou poussées par les marchands. Les marchands d'esclaves, les marchands de biens, etc. Hein ? Il y a quand même, derrière cette histoire de commerce qui rapproche les peuples, oui, mais entre le commerce qui rapproche les peuples, il y a des guerres, justement, qui permettent au commerce de se nourrir à l'échelon planétaire. Les religions, des guerres de religion, peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Ce que je vois, c'est des ripollinages religieux. Quand vous êtes au Sahel, si vous êtes dans le nord Mali, y a des lignes de fracture. Il y a des lignes de fracture entre Touareg, Peul, Songhai. Mais au Mali, vous êtes surtout sur le plus riche de tous les empires médiévaux. L'empereur Moussa était l'homme le plus riche du monde au XIVe siècle. Les chroniqueurs arabes ont gardé dans leurs écrits la façon dont il était arrivé avec des milliers d'esclaves et des tonnes d'or lorsqu'il était parti lui-même faire son pèlerinage à la Mecque. Tous les chroniqueurs du Caire étaient restés espantés, comme on dit chez vous. Et le Mali, on a vu un désert sur la photo. Oui, mais c'est pas ça, c'est la boucle du Niger. Et aujourd'hui, lorsque vous faites les à côté de la guerre, que vous discutez avec les gens, que vous êtes sur le terrain, le Mali reste un énorme producteur d'or, sauf que l'essentiel de la production d'or du Mali se fait au noir, n'est pas officiel. Elle sert à payer Wagner. Quel est le but ? L'un des buts, alors je ne sais pas, je suis pas dans des logiques de complot, mais la prédation sur l'or malien et sur l'or africain à l'heure actuelle arrive au moment où la Russie est un pays qui est à la manœuvre pour lancer une monnaie concurrente au dollar et qu'il faudra appuyer sur des stocks d'or aussi. Donc c'est aussi ces questions-là. Je n'ai pas de réponse là-dessus, mais ce sont des questions, ce sont des prédations pour lancer des monnaies concurrentes face aux États-Unis. Peut-être. Ce sont des questions qui se posent et que vous racontent les gens sur le terrain. Ensuite, la guerre sur le terrain, ben, quand vous êtes au Mali, là où on perd la guerre, je dis « on », là où la France perd la guerre, c'est quand vous avez des gens qui sont dénutris à Gao, qui ont le palu et qui bossent avec 40 de fièvre dans des petits ortillonnages qu'on aide à développer et qui n'ont pas de médicaments alors que nous les avons et que ça ne coûte rien. Et ils le savent. Et là, c'est un vrai problème. Penser le Mali, moi, ce qui m'a étonné avec cette opération Barkhane, c'est que sur la surface de l'Europe, je dépasse. Ah oui, pardon. Bon, enfin bref, 3000 Pax, 4005 sur quelque chose qui est grand comme l'Europe et sur lequel les circuits de trafic sont opérationnels depuis 2500 ans. Donc on peint en vert les trafiquants, on se laisse pousser la barbe et on chasse ceux qui viennent déranger le trafic humain, trafic de drogue, trafic d'armes. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. Tu as vu comment... Patrick va te succéder. C'est l'après-midi des journalistes. Je trouve que votre exposé, cher Pierre Charlier, était passionnant, à la fois par ce témoignage direct de choses vécues et surtout empreint de beaucoup d'émotions et de compassion, et en même temps avec une grande réflexion sur des questions qui sont évoquées de façon parfois insuffisante par des exposés sur la diplomatie ou les rapports de force entre nations, c'est-à-dire la laïcité, puisque vous avez consacré un paragraphe important au rôle des religions, et aussi la finance qui a été dénoncée par Jaurès, Anatole France. Vous avez fait de bonnes citations.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors maintenant, c'est Patrick Le Yarrick qui va nous parler de nouveau de la paix dans le sillage de Fabien Gay. Mais je crois que Patrick, qui est un excellent connaisseur de Jean Jaurès, fera quelques allusions à notre grand Jaurès que nous chérissons toujours et qui nous apporte beaucoup d'enseignements. Donc c'est à toi, Patrick.
Merci, Rémi. Je pose une question d'emblée. Est-ce que, tel un grand somnambule, le monde est-il en train de marcher vers un gouffre qui peut l'engloutir ? La question se pose avec gravité quand les guerres font le quotidien des gouvernements désormais et que grandissent toutes les insécurités sociales, sanitaires, alimentaires, climatiques. La violence de ces insécurités humaines globales, sans cesse grossies des crises économiques et démocratiques, nourrissent depuis une trentaine d'années la montée des monstres populistes et nationalistes qui s'emparent du pouvoir politique dans de grandes puissances désormais. Les crises et les guerres s'enchaînent, comme on le voit avec les tensions dans la mer de Chine, l'inadmissible guerre en Ukraine, les secousses dans le Caucase et dans l'Afrique subsaharienne et maintenant le feu qui menace le Proche-Orient. L'amplification de ces conflits et guerres ont lieu alors que se désagrège ce que les penseurs du capitalisme avaient présenté comme la porte du bonheur, la globalisation marchande et financière, nous avait-il promis. Ce grand désordre mondial est encore aggravé par les réponses de ce qu'on appelle désormais l'Occident collectif, mené par les États-Unis à la crise de son hégémonie. Au prétendu doux commerce, théorisé par l'Alliance des capitalistes du monde, succède la guerre et ses cortèges de drames humains comme moyen de faire perdurer leur système de domination. C'est ce que vient de confirmer le président Biden dans son article au Washington Post samedi dernier. Il y écrit, je cite, « Aujourd'hui, le monde est confronté à un point d'inflexion où les choix que nous faisons, y compris dans les crises en Europe et au Moyen-Orient, détermineront l'orientation de notre avenir pour les générations à venir. » Et un peu plus loin, il renforce sa démonstration en disant, je le cite toujours, « L'Amérique, y compris les États-Unis, c'est la nation essentielle. Essentielle veut dire que les intérêts des États-Unis doivent déterminer la politique du monde entier. » L'impérium nord-américain se sent menacé au moment où les pays dits du Sud global, qui sont très divers, quoi qu'on en dise, s'organisent tandis que des pays pensent pouvoir reconstituer leurs anciens empires. C'est le cas de la Russie, de la Turquie, de l'Iran. De son côté, la Chine est engagée sur un grand projet des routes de la soie et affirme sa présence sur le continent africain et dialogue maintenant sérieusement, de plus en plus, avec les pays du Proche et du Moyen-Orient. Dans un tel contexte, l'Union européenne fait fausse route avec son réalignement atlantiste alors qu'elle aurait une nouvelle carte à jouer pour allier progrès social, coopération avec tous les peuples, à commencer par ceux du Sud, paix et sécurité humaine commune. L'Union européenne devrait se fixer l'objectif d'une action ample pour remplacer la force des armes par la force de la politique et de la diplomatie, la force de la paix et de la coopération. Elle pourrait être le fer de lance de l'application de grands traités internationaux comme ceux sur la préservation du climat, de la biodiversité ou le traité international de protection de la haute mer. Elle pourrait être active pour faire revenir les États-Unis et la Russie à la table des discussions, pour faire revivre les traités de désarmement qu'avaient en leur temps signés Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan. aujourd'hui remis en cause, aggravant du même coup toutes les insécurités mondiales. Elle pourrait être partie prenante du traité de désarmement nucléaire. Malheureusement, le moment décrit par Jean Jaurès dans son éditorial fondateur de l'Humanité semble d'une brûlante actualité. Je le cite. « L'humanité n'existe point encore où elle existe à peine. De nation à nation, c'est un régime barbare de défiance, de ruse, de haine, de violence qui prévaut encore. Même quand elle semble à l'état de paix, elle porte la trace des guerres d'antan, l'inquiétude des guerres de demain et comment donner le beau nom d'humanité à ce chaos des nations hostiles et blessées, à cet amas de lambeaux sanglants. Le sublime effort du prolétariat international, c'est de concilier tous les peuples par l'universelle justice sociale, alors vraiment. Mais seulement alors il y aura une humanité réfléchissant son unité supérieure dans la diversité vivante des nations amies et libres. Évidemment, nous ne sommes pas le 17 avril 1904. Cependant, il est difficile de caractériser la situation post-1945, dite d'après-guerre, quand il y a eu depuis 160 conflits dans le monde qui ont provoqué 40 millions de morts. L'une des crises les plus sécuritaires et humanitaires pourtant si négligées, celle qui sévit au Congo, a déjà provoqué 6 millions de morts et déplacé 5 800 000 autres, est absente de tous les radars. Les grands trusts capitalistes ont besoin du silence pour piller l'or blanc, le coltan, minerai rare qui sert à fabriquer nos téléphones portables. Silence aussi sur les méfaits de l'armée éthiopienne qui, avec le soutien de l'Érythrée, a provoqué 500 000 morts. Silence aussi sur les terribles conséquences des guerres en Irak, en Libye, en Afghanistan, en Syrie. Et les Arméniens du Haut-Karabakh ont été royalement sacrifiés sur l'autel des accords pétroliers entre les Occidentaux, à commencer par les dirigeants européens avec la dictature de l'Azerbaïdjan. Nous ne sommes pas en 1905. Cependant, nous sommes entrés dans cette période extrêmement dangereuse où le bruit sourd des chenilles des chars, le vombrissement des avions de guerre, l'agressif ronronnement des porte-avions et des navires de guerre glissant sur les mers fait couler le sang, sème le désespoir et la mort. Les usines d'armement des 10 pays qui cumulent les 3/4 des dépenses militaires mondiales tournent à plein régime et nouveauté, agiter aujourd'hui la menace de l'utilisation de la bombe atomique, comme l'a fait Poutine et Medvedev, ou le ministre de l'Intérieur israélien il y a quelques jours, est presque devenu une banalité. Le continent européen n'était déjà pas en paix avant le 24 février 2022, jour de l'agression russe contre l'Ukraine. On ne peut pas oublier les guerres des Balkans entre 92 et 95, la guerre du Kosovo en 99, la guerre Russie-Géorgie de 2008, les guerres de Tchétchénie des années 90. L'agression russe contre l'Ukraine est pourtant d'une nature différente et bien plus grosse de menaces. Elle est le résultat de plusieurs facteurs. Une longue période où, à la fin du soviétisme, les pays occidentaux s'étaient engagés à ne pas intégrer les pays de l'Europe orientale et centrale dans l'alliance militaire de l'OTAN. La réactivation du nationalisme grand russe par Poutine dans le cadre de l'insertion de la Russie et de l'Ukraine dans le capitalisme mondialisé et de la guerre économique intracapitaliste qu'il impulse. Les travailleurs, les peuples de Russie comme ceux d'Ukraine ont été enchaînés au plan destructeur de leurs droits sociaux et économiques du Fonds monétaire international et des marchés financiers. Rien n'est réellement fait en Russie, en Ukraine, au sein de l'Union européenne et encore moins aux États-Unis pour chercher une petite voie pour la paix. Celle-ci passe par un cessez-le-feu et une négociation de paix dans la perspective de la construction d'un système garantissant la sécurité de l'Ukraine et de la Russie dans le cadre d'un système européen de sécurité commune permettant de dépasser l'OTAN. Plusieurs pays ont en vain fait des offres de médiation, à commencer par la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, le pape. Les volontés impériales de la Russie de Poutine, qui veut reconstituer l'Empire grand russe ou une fédération eurasienne, comme les stratégies prédatrices des principaux pays de l'OTAN et la volonté d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, au sein de laquelle les États-Unis sont de retour, s'y oppose tant qu'un rapport de force populaire n'oblige à faire dresser la table des négociations pour la paix et de la sécurité commune en Europe. Cette guerre Russie-Ukraine se transforme peu à peu en guerre Russie-OTAN pour des intérêts géoéconomiques et géostratégiques. L'engagement de l'OTAN et de l'Union européenne est défendu au nom de ce qui est appelé dans nos contrées nos valeurs. Mais en vérité, il n'y a que des intérêts de part et d'autre et peu de valeurs. Et s'il faudrait parler de valeurs, elles ne sont que des valeurs marchandes. Surtout les pays qu'on nomme désormais du Sud global ne supportent plus les leçons sur le droit international bafouées, alors que les Occidentaux sont les premiers à violer ce même droit et à mépriser l'Organisation des Nations Unies. Les leçons du déclenchement de la guerre en Irak sur la base d'un mensonge, celles des guerres d'Afghanistan ou de Libye, qui s'ajoutent à la prépondérance du dollar dans les échanges internationaux, à l'extraterritorialité du droit nord-américain, sont devenues pour eux insupportables. Le même Joe Biden, qui déclarait le 25 janvier 2023, en annonçant la livraison de chars Abrams à l'Ukraine, je le cite, « Nous allons aider l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté », ajoutant « Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par la force », est aussi le même Biden qui manifeste un soutien inconditionnel au gouvernement de droite extrême et d'extrême droite en Israël et lui fournit argent et armes pour pousser toujours plus la colonisation et l'annexion de la Palestine et l'affreux nettoyage en cours à Gaza. Au lieu de faire valoir la justice et le droit international, d'assécher les financements et de faire arrêter les dirigeants du Hamas, on ne sait où ils sont, dans les beaux quartiers de Doha, qu'ils ont contribué eux-mêmes à créer et à nourrir pour détruire l'Organisation de libération de la Palestine. Ce sont les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, qu'on assassine par milliers, les populations que le pouvoir israélien affame et prive de soins, tandis que les populations israéliennes sont prises en otage et vivent en insécurité. À la différence des guerres de 2008 et de 2014, cette nouvelle agression meurtrière, guerrière contre Gaza, se déroulant dans le nouveau contexte mondial et un nouveau contexte politique en Palestine, comme en Israël, porte en elle les germes d'une déflagration bien plus large. D'abord, le projet israélien, affirmé ces derniers jours par plusieurs ministres, et de vider Gaza de ses habitants et au-delà de demander à tous les Palestiniens, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, de subir, je le cite, une nouvelle Nakba. C'est ce qu'a confirmé le sinistre ministre des Finances Smotrich, lançant un appel, je le cite, à l'immigration volontaire des Arabes de Gaza vers les pays du monde. Et cynique, ce serait pour lui, je le cite, la bonne solution humanitaire. Ainsi, à la faveur des abominations du Hamas, perpétrées le 7 octobre, l'extrême droite israélienne et la droite de Benjamin Netanyahou pensent le moment venu de réaliser le projet nationaliste du grand Israël, contraire pourtant aux résolutions de l'ONU. Ce n'est pas un hasard si lors de son discours il y a quelques semaines à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien a brandi une carte d'Israël sur laquelle son pays occupait tout le territoire, du fleuve à la mer, comme ils disent, et où même ce que l'on appelle aujourd'hui les territoires occupés de Palestine n'existaient plus. Cette carte baptisée le Nouveau Moyen-Orient vise une nouvelle économie, notamment à partir de l'exploitation et le transport du gaz naturel liquéfié. L'humanité a consacré un important dossier sur ce sujet il y a 2 jours. Je vous invite à le lire, il est très instructif. Face à Israël, l'Iran comme le Qatar cultivent aussi leur nationalisme et sont les soutiens financiers et politiques du Hamas, devenu un acteur non étatique, ne rendant aucun compte devant aucune instance internationale. Comme d'ailleurs le groupe Wagner, agissant en plusieurs endroits au Sahel, pour le compte de la Russie, ou encore le Hezbollah contrôlant une partie d'un pays exsangue, le Liban. Quand sur notre sol, on tue Samuel Paty, le professeur d'Arras, Dominique Bernard, après les crimes terroristes commis au Bataclan et d'autres, notre pays est confronté à ces acteurs non étatiques comme Daesh ou État islamique, qui justifient leur barbarie à partir des interventions de notre pays au Proche et Moyen-Orient comme au Sahel. Ces acteurs se revendiquant d'un islamisme fondamentaliste sont à la fois le résultat du colonialisme occidental, de la misère, de la destruction des forces progressistes et de libération nationale dans ces pays et des tapis de bombes déversés ces 20 dernières années par les grandes puissances occidentales sur l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye et le refus d'appliquer les résolutions de l'ONU qui prévoient un État israélien, il existe, et un État palestinien. C'est toujours au cœur du chaos, sur la fumée des ruines provoquées par les armées occidentales, la misère qu'elle amplifie, l'injustice du deux poids deux mesures, que naissent ces monstres gorgés de fanatisme que se développent comme en miroir des extrêmes droites qui gagnent du terrain aux quatre coins de la planète. La destruction de Gaza n'éradiquera pas le djihadisme et le terrorisme, pas plus qu'il ne l'a fait l'intervention militaire américaine en Irak ou en Afghanistan, on le voit bien. Dans un contexte de misère et de chaos, où les forces de progrès ont été patiemment détruites sous la baguette américaine, des forces nationalistes alliées à l'islamisme politique élargiront encore leur sphère d'influence et mobiliseront des citoyens croyant trouver là le chemin pour améliorer leur vie. Les réactions populaires dans les pays arabes peuvent même conduire à déboulonner nombre de responsables politiques soupçonnés de ne pas suffisamment soutenir la cause palestinienne. Or, rien ne serait pire aujourd'hui que l'islamisation de la cause palestinienne pour faire oublier que nous avons affaire à une guerre de colonisation, à l'heure où le Proche-Orient revêt pour les grandes puissances une importance capitale du fait des intérêts économiques, commerciaux ou énergétiques qui se trouvent dans cette région. C'est là, en effet, qu'il faut rechercher l'explication d'une part décisive du soutien nord-américain à l'État d'Israël. Cela démontre en creux que l'Union européenne et particulièrement la France n'ont aucun intérêt, strictement aucun intérêt à s'aligner sur la Maison-Blanche. C'est d'ailleurs ce qui inquiète beaucoup de larges cercles de l'administration nord-américaine désormais préoccupée d'une situation qui peut échapper à l'impérium et dégénérer en guerre régionale, voire en conflit mondial aux multiples implications. Mais il en est de même de cercles importants de notre Quai d'Orsay, qui s'inquiète désormais à haute voix du parti pris présidentiel en faveur du pouvoir israélien ou pour le moins d'un déséquilibre dans l'expression et les actions. De ci, de là court l'idée selon laquelle le président de la République serait prêt, mais dit-il, c'est trop tôt, de produire un acte important qui serait celui de reconnaître l'État de Palestine. Mais il n'est pas trop tôt. C'est maintenant qu'il faut le faire, avant que cela dégénère au pire. Chacun mesure bien la dangerosité de la situation avec le déploiement d'une armada de guerre par les États-Unis, avec des centaines d'avions cargo chargés de bombes, de missiles, les défenses aériennes d'Israël renforcées par les outils américains, mais aussi en Jordanie et à Chypre, des forces spéciales et 2000 Marines avec les deux porte-avions et les navires qui les accompagnent. De son côté, la Russie déploie les avions MiG-31 équipés de missiles hypersoniques et la Chine aurait également déplacé des navires de guerre dans la région. C'est dire si la situation devient très préoccupante. Heureusement qu'en parallèle se déploie une intense diplomatie pour contenir le conflit et que le mouvement mondial pour la paix et la justice commence à modifier le rapport des forces. Mais rien ne dit que les Américains ont intérêt une nouvelle fois à inscrire leur nom à une opération guerrière dont personne ne peut prédire jusqu'où elle peut nous mener. Ils ont pourtant, avec l'Union européenne, largement les moyens de contraindre le gouvernement israélien à la raison. Pourquoi vante-t-on les sanctions à l'égard de la Russie ou de l'Iran ? Et cet outil ne pourrait-il pas être utilisé pour contraindre Israël à respecter le droit international ? Encore un deux poids, deux mesures que ne supportent pas les peuples et les pays dits du Sud global. Le chemin de la paix passe donc bien par le respect de la liberté et l'autodétermination du peuple palestinien qui doit pouvoir construire son État-nation, ses institutions et élire ses dirigeants. Et on nous dit régulièrement, l'autorité palestinienne est discréditée, il n'y a pas de possible discussion avec eux. S'il y en a une, qu'on libère les députés du Conseil législatif palestinien et tous les prisonniers politiques. Parmi ces députés, il y en a un que nous connaissons très bien, puisqu'il faisait le lien entre le Conseil législatif palestinien et l'Assemblée nationale française. Son nom est Marwan Barghouti et il a déjà fédéré de la prison l'ensemble des factions palestiniennes et il pourrait être en situation aujourd'hui de prendre la tête de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'autorité palestinienne. Mais évidemment, parlons franc, ni les dirigeants israéliens d'aujourd'hui, ni le Hamas ne le mettent sur aucune liste de libération. Le chemin de la lutte contre l'obscurantisme djihadiste se confond donc bien avec le combat pour la justice sociale, l'émancipation des peuples, le respect du pluralisme politique et la possibilité pour les travailleurs de pouvoir se défendre avec leurs organisations syndicales. Il se confond avec la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés de celui d'Israël dont la sécurité doit être assurée. Si le chef de l'État posait cet acte fort de reconnaissance de la Palestine, je suis convaincu que cela changerait beaucoup de choses sur la scène internationale. Il faut qu'il le fasse, il faut que nous ne cessions de le lui demander. Le chemin de la paix appelle à tourner le dos aux impérialismes et aux nationalismes capitalistes, se déployant dans les conditions de la mondialisation accélérée et des traités de libre-échange, accentuant la concurrence, la guerre économique et commerciale dont les fantassins sont les travailleurs des villes comme ceux des champs. Ces guerres intra-capitalistes poussent chaque entreprise multinationale à ouvrir de nouveaux marchés, à s'accaparer les matières premières rares, comme je viens de le dire, le coltan au Congo, l'uranium au Niger, indispensable aux nouvelles technologies, à tenter de contrôler l'arme énergétique, comme le pétrole ou l'énergie nucléaire, l'arme alimentaire avec le blé ukrainien ou le maïs, le soja brésilien et argentin. Cette guerre économique surexploite des enfants, des femmes, des travailleurs, épuise la nature, brutalise le climat et ouvre la voie aux guerres de proie, aux guerres militaires, dès lors que les intérêts de quelques grands groupes capitalistes sont défendus par leurs États nationaux respectifs. C'est déjà ce que nous enseignait Jaurès dans son projet de discours de Berlin que Rémy a cité ce matin, le 9 juillet 1905. Je le cite. « La concurrence économique de peuple à peuple et d'individu à individu, l'appétit du gain, le besoin d'ouvrir à tout prix, même à coups de canon, des débouchés nouveaux pour dégager la production capitaliste, encombrée et comme étouffée sous son propre désordre, tout cela entretient l'humanité d'aujourd'hui à l'état de guerre permanente et latente. Ce que l'on appelle la guerre n'est que l'explosion de ce feu souterrain qui circule dans toutes les veines de la planète et qui est la fièvre chronique et profonde de toute vie. C'est la paix et la coopération qui deviennent les conditions impératives pour trouver des solutions aux grands enjeux mondiaux communs et pour créer de nouvelles conditions pour la sécurité environnementale et climatique, la sécurité sanitaire, énergétique, alimentaire et la sécurité sociale. Elle nécessite de réhabiliter l'Organisation des Nations Unies, toutes ses agences et l'Assemblée générale, tout en refondant son Conseil de sécurité à l'image du monde d'aujourd'hui qui n'est plus celui de 1947. En vertu du chapitre 5 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale. Il ne le fait plus. Mais, en vertu d'une résolution qu'on appelle 377, qui date de 1950, à l'initiative d'ailleurs des Américains à l'époque, dite « Union pour le maintien de la paix », l'Assemblée générale a élargi ses prérogatives pour examiner des sujets qui étaient auparavant réservés au Conseil de sécurité. Elle pourrait donc, dans les cas de l'Ukraine et du Proche-Orient, prendre des initiatives de protection des populations civiles, voire déployer des casques bleus, pour protéger les citoyens en Ukraine et dans la bande de Gaza. Au-delà de l'ONU, c'est évidemment l'ensemble du système de relations internationales et du système financier qu'il faudra aujourd'hui réformer. Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, pour les démocratiser, les mettre au service de projets de développement humain et de progrès environnemental. Un nouveau projet politique de paix et de sécurité humaine implique, à mon sens, que les travailleurs du monde entier, le prolétariat international dont parlait Jaurès, puissent s'unir par-delà les différentes situations et ensemble conquérir leur souveraineté politique sur la production et le travail. C'est un saut démocratique de grande ampleur. Au-delà de la citoyenneté dans la cité, en admettant qu'elle existe véritablement, qu'il s'agit de conquérir, il s'agirait, je crois, d'ajouter à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens les mots « et des travailleuses et des travailleurs », de telle sorte que les travailleuses et les travailleurs soient souverains sur leur travail et la production. Donc, paix, justice et progrès social et environnemental, démocratie, nations et peuples souverains et associés sont un même combat pour la sécurité humaine globale. Je vous remercie.
Bien, merci Patrick pour cette analyse très pointue où tu as lié tes talents de journaliste avec et aussi ton expérience de député européen pendant 10 ans, je crois. Donc, et tout cela éclairé par la pensée de Jaurès, comme je l'avais annoncé. Et tu as esquissé des chemins, des voies, des solutions qui, j'espère, pourront avancer malgré les grosses difficultés.
Même audio ? Une mémoire sonore ?